avec ce pays pour te le présenter. Seigneur, merci de nous l'avoir accordé, d'avoir permis que nous naissions, que nous vivions sur ce territoire. Notre prière est que tu puisses, Seigneur, couvrir ce pays de ta gloire, que ta lumière puisse luire, Seigneur, dans ce pays, que ton œuvre puisse prospérer à tous égards, que les perdus soient ramenés au salut, que les captifs soient délivrés et libérés dans le nom de Jésus. Que ton sang lave, que ton sang lave la RD Congo au nom de Jésus. Nous implorons ta grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Maître. Nous voulons maintenant, Seigneur, te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. S'il te plaît, dépose quelque chose de neuf dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, à l'occasion de ce dimanche de Pentecôte, nous ouvrir à toi, Seigneur, afin que par ton esprit, tu puisses souffler puissamment dans chacun de nous. Merci Jésus. Bénis-nous par ta parole et que toute la gloire te revienne. Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Bien, nous avons un programme fort chargé. Nous allons très rapidement nous tourner vers la parole de Dieu. Je vais introduire un thème qui va nous accompagner pendant plusieurs dimanches. C'est donc le thème relatif à la promesse du Père. Nous allons voir comment cette promesse s'est accomplie à l'époque des apôtres, comment elle s'est accomplie après les apôtres, comment elle continue de s'accomplir un peu partout à travers le monde, partout là où les gens attendent l'accomplissement de cette promesse avec foi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, nous allons lire dans Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. À partir du verset 1er. Voilà ce que l'évangéliste Luc nous dit dans son deuxième livre, à savoir ce livre des Actes. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume ou le règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, « Vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Et donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Le Seigneur leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, le Seigneur fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat, à peu près 1 kilomètre. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans les supplications avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Et au chapitre 2, la promesse s'accomplit. Verset 1er, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À cette manifestation glorieuse du Saint-Esprit, à ce bruit puissant et violent, eh bien, des gens vont réagir, ils vont être attirés, ils vont venir. Pierre va prendre la parole et le verset 32-33 nous dit, nous terminerons là-bas, par là. Verset 32-33, c'est donc la prédication de Pierre. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Gloire au Seigneur. Retenez bien ces deux mots, ils vont nous accompagner pendant plusieurs dimanches. Le verbe voir et le verbe entendre, qui reste et demeure intimement lié à l'accomplissement de cette promesse du Père. Donc, comme je l'ai dit, nous allons parler de cette promesse du Père et notre thème donc de ce matin est la promesse du Père pour tous ses enfants. Aujourd'hui, ça sera simplement une introduction puisque nous avons, comme vous l'avez remarqué, une remise des diplômes à tous ces merveilleux couples. Ça sera donc une introduction à ce thème. Nous continuerons dans les dimanches à venir. Gloire au Seigneur. Pendant plusieurs dimanches, nous avons essayé d'attirer votre attention sur la nécessité de pouvoir demeurer dans un état demeurer dans un état où chacun de nous, eh bien, marche, mène une vie qui soit en adéquation avec la volonté de Dieu, mène une vie qui plaise au Seigneur. Cette vie qui plaît au Seigneur n'est autre que la vie, eh bien, de réveil, aussi bien sur le plan moral que sur le plan spirituel. Et presque à la fin de cette série de messages, nous nous sommes posé la question de savoir ce qu'il fallait absolument faire pour être réveillé, ou ce qu'il fallait faire pour demeurer dans cet état de réveil. Eh bien, nous avons mis en évidence, mis en exergue, quelques constantes de la parole de Dieu, c'est-à-dire de vérités qui restent transcendantales, qui ont été valables à l'époque des patriarches, valables à l'époque d'Israël, à l'époque des prophètes, mais aussi à l'époque des apôtres, mais aussi encore aujourd'hui. Et parmi ces constantes de la parole de Dieu que nous devons absolument, mes amis, intégrer à notre vie, si nous voulons mener une vie qui soit en conformité avec la parole de Dieu, si nous voulons mener une vie de qualité comme le Seigneur nous l'ordonne et, ou nous la décrit, nous n'avons pas d'autre choix que de connaître ces constantes et de les mettre en pratique. Et la constante majeure reste et demeure. Mes amis, hier comme aujourd'hui et encore demain, la constante majeure reste celle-ci, la recherche de la personne de Dieu. Nous ne pouvons pas nous passer de cette recherche. C'est donc Dieu qui réveille, c'est donc Dieu qui brille en nous, c'est donc Dieu qui nous donne de mener cette vie de véritable sel de la terre et de véritable lumière du monde. Et ces constantes qui nous conduisent à l'expérimentation de la personne de Dieu dans notre vie sont la parole de Dieu, la personne de Jésus-Christ, ainsi que son œuvre rédemptrice et expiatoire à la croix, mais aussi la personne et l'action régénératrice du Saint-Esprit, et ainsi que le renouvellement des puissances. Et aujourd'hui, je voudrais donc attirer notre attention sur la personne du Saint-Esprit et sur l'œuvre, mes amis, qu'il accomplit depuis qu'il est descendu sur cette terre lors de cette grande Pentecôte à Jérusalem, 10 jours après que le Seigneur soit retourné auprès du Père. La Pentecôte. Voilà un mot qui nous est familier. Voilà un mot qui a amené certains à nous identifier ainsi. Ce ne sont pas les pentecôtistes qui se sont appelés au départ pentecôtistes, mais c'est plutôt les autres qui les ont pointés du doigt et qui les ont appelés pentecôtistes parce qu'ils croyaient que ce que le Saint-Esprit a fait au jour de la Pentecôte, en ce jour-là, à Jérusalem, eh bien, il l'a accompli à travers les âges et il l'accomplit encore aujourd'hui. Je vais donc attirer votre attention sur cette promesse, la promesse du Père qui s'est accomplie ce jour-là, jour qui a correspondu avec la fête de Pentecôte. 120 disciples de Jésus, 120 disciples qui ont attendu l'accomplissement de cette promesse, qui ont langui, qui ont soupiré après cette expérience, du jour après, eh bien cette expérience est devenue une réalité. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit avec des signes visibles. Gloire à Dieu. Mes amis, entre le moment où le Seigneur est retourné auprès du Père, le moment où il a été enlevé au ciel, et le moment où il reviendra sur cette terre, nous voyons qu'il y a un nouvel acteur qui est monté sur la scène de l'histoire de l'humanité. Il y a un autre acteur aussi important, aussi indispensable que le Seigneur lui-même. C'est d'ailleurs lui qui a dit à propos de cet acteur, qui n'est autre que le Saint-Esprit, il a dit ceci, « Il est donc avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, eh bien le paraclet, le consolateur, l'aide, l'avocat, le défenseur, le soutien, eh bien si je ne pars pas, celui-là ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, dit-il, je vous l'enverrai. » Alléluia. Celui qui a dit, mes amis, si je pars, je vous l'enverrai. Et comme il est fidèle à sa parole, fidèle envers lui-même, eh bien, au jour de la Pentecôte, il a tenu sa promesse. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et depuis lors, l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre un peu partout dans le monde. Donc, nous voyons que dans le laps de temps qui sépare l'ascension du Seigneur de son retour en gloire, il y a cette période, il y a cette dispensation dans laquelle cet acteur incontournable qu'est le Saint-Esprit, cet acteur irremplaçable qu'est l'Esprit de Dieu, qu'est l'Esprit du Christ, eh bien il y a donc cet acteur durant cette période qui manifeste sa toute puissance partout où les hommes et les femmes croient et confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Partout l'Évangile est annoncé. Partout là, mes amis, le Saint-Esprit travaille. À travers l'histoire, là où les hommes et les femmes ont proclamé l'Évangile, là le Saint-Esprit a été présent pour convaincre les pécheurs, a été présent pour amener, pour faire prendre conscience aux uns aux autres de la nécessité de se tourner vers l'œuvre de la croix pour recevoir le salut et se réconcilier avec le Créateur. Gloire au Seigneur. Tout a commencé à Jérusalem. Tout est parti de là, lors de cette fête juive de Pentecôte. Et puis ensuite, nous voyons le Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, chapitre 2, être à l'œuvre jusqu'à la fin du livre des Actes. Voyez. Même si ce livre porte le nom des Actes des apôtres, en réalité, les apôtres n'y jouent pas de rôle important. C'est le Saint-Esprit qui en est la vedette. Alléluia. C'est donc lui qui est à la base de tout. C'est lui qui les a revêtus de puissance. C'est lui qui leur a donné de parler en d'autres langues. C'est lui qui leur a donné l'onction dont ils avaient besoin pour annoncer aux uns aux autres que Jésus est véritablement ressuscité d'entre les morts, qu'il a été élevé à la droite du Père, qu'il est assis à la majesté, à la droite de la majesté divine et qu'il intercède pour tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Partout là, le Saint-Esprit agit. Mais son action ne s'est pas arrêtée à la fin du livre des Actes, mes amis. Nous le voyons à travers l'histoire de l'Église. Partout où des hommes et des femmes ont compris
qu'il était important de pouvoir chercher cette communion avec le Saint-Esprit, de pouvoir faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Partout, les gens ont compris que la promesse du Père était une seconde rencontre avec Jésus. Partout là, l'Église a assumé pleinement sa vocation d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et aujourd'hui encore, mes amis, nous avons besoin dans l'Église du Christ des hommes et des femmes qui passent par cette expérience comme nous le verrons. C'est quelque chose de fondamental. C'est un ordre que le Seigneur leur a donné. C'est vrai que dans nos versions, notamment dans celles que j'utilise, il est dit que le Seigneur leur recommanda. Voyez. Mais vous savez tous que recommander veut dire conseiller vivement quelque chose à quelqu'un. C'est demander à quelqu'un quelque chose. Voyez, avec insistance. C'est vrai, on peut demander, on insiste, mais une recommandation n'est pas forcément un ordre. Mais lorsque nous nous tournons vers la traduction littérale, nous voyons bien, mes amis, que c'est un ordre qu'il leur a donné. Et par rapport à cet ordre, eh bien, les disciples ont obéi. Résultat, ils ont expérimenté ce baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est donc le Saint-Esprit qui est à l'honneur à travers tout le livre des Actes. C'est le livre qui nous parle du début de l'Église de Jésus-Christ. C'est le livre qui nous montre comment l'Église de Jésus, au départ, constituée d'une poignée de gens peu instruits, peu éduqués, va finir, mes amis, par embraser le monde de son temps. Partout ils sont passés. Partout là, mes amis, nous voyons la gloire de Dieu se manifester. C'est parce qu'il y a eu la Pentecôte, il y a eu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et aujourd'hui encore, si nous voulons que l'œuvre de Dieu prospère par nous et au travers de nous, si nous voulons que l'Église se dresse face à toutes ces autorités démoniaques, eh bien nous n'avons pas d'autre choix que de rejoindre le Seigneur dans cette rencontre de la Pentecôte. Oui, il est sauveur, il nous a sauvés du péché, mais il est aussi celui qui baptise de feu et de l'Esprit. Beaucoup se contentent de la première rencontre où Jésus est sauveur. Les apôtres l'ont rencontré. Les apôtres ont expérimenté le salut. Les apôtres ont été pardonnés. Les apôtres sont devenus ses disciples. Il leur a dit, voilà comment vous pouvez prier. Notre Père qui est... Donc Dieu était devenu leur Père. Les apôtres étant sauvés, eh bien ils étaient destinés à partager un jour son éternité de gloire. Cependant, avant son ascension, il leur donne cet ordre, cette injonction. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que la promesse du Père, dont vous m'avez entendu parler, puisse s'accomplir. Jean le Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Nous l'avons chanté, mes amis. Le Saint-Esprit, nous en avons besoin. Mais comme pour toutes les bénédictions de Dieu, comme nous le verrons dans la suite, ce baptême du Saint-Esprit est aussi question de foi. Car ce qui fait bouger Dieu, ce qui amène Dieu à accomplir ses promesses dans notre vie, ce n'est pas tant parce que nous sommes dans un besoin quelconque. Ce n'est pas tant parce que nous avons des raisonnements, eh bien, théologiques qui nous permettent de comprendre, oui, le Saint-Esprit, oui, ceci ou cela. Ce qui fait bouger Dieu, mes amis, c'est la foi. Oh, alléluia. C'est la foi. Donc, ça veut dire que même dans ce domaine du baptême du Saint-Esprit, nous devons faire preuve de foi. Ils se sont retirés, non pas sur suggestion de Pierre ou de tout autre apôtre. Non. Ils se sont retirés, ils sont restés à Jérusalem parce que le Seigneur leur avait donné ce commandement. Il leur avait donné, mes amis, cet ordre. Il leur a laissé cette promesse. Ils ont saisi cette promesse. Ils l'ont serré dans leur cœur. Oh, gloire à Dieu. Ils se sont mis à attendre une attente dynamique dans la prière, en frappant à la porte du ciel. Seigneur, tu as dit d'attendre. Oui, tu nous as donné la vocation d'aller prêcher ton évangile. Oui, nous avons reçu cet appel à l'apostolat, mais nous ne pouvons pas aller parce que tu nous as demandé d'attendre. Seigneur, nous attendons. Ce n'était pas une attente, mes amis, statique, dans la distraction, mais non, ils avaient pris cet ordre au sérieux. Voyez-vous, une attente dynamique. Ils ont continué à caresser cette promesse en s'appuyant sur la fidélité de Dieu, en se disant que ce que Dieu dit, eh bien, il l'accomplit également. Comme Moïse nous le dit dans le livre de Nombres, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Voyez-vous, Dieu n'est pas un homme pour éprouver du regret. Ce qu'il déclare, ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il dit, ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? Fort de tout cela, ces gens se sont retirés dans la prière, dans une attente dynamique. Vous voyez? Et résultat, celui qui s'appelle fidèle et véritable a fini par honorer leur attente. Alléluia. Nous avons un sauveur merveilleux, mes amis. Nous avons un sauveur extraordinaire qui nous a fait mille et une promesses. Et il attend que nous marchions selon ses promesses et non pas marcher par la vue ou selon les circonstances qui nous environnent. Voyez-vous? La foi est nourrie par les promesses de Dieu. Voyez. Donc le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Et cette promesse qui a été faite d'abord aux apôtres et aux autres disciples de la première église, eh bien cette promesse, elle a été faite à tout le monde. Comme Pierre le souligne au verset 39 dans son discours, ce jour-là, ce jour de la Pentecôte, il leur dit, car la promesse est pour vous, la promesse est pour vos enfants, et la promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Cette expression au loin a à la fois une valeur spatiale et temporelle. Au loin dans l'espace, c'est-à-dire au-delà de Jérusalem, n'est-ce pas? Au loin également dans le temps qui vient, dans les siècles qui viennent. Eh bien, cette promesse est valable. Revenons très rapidement à notre texte. Le Seigneur demande donc à ses disciples, en l'occurrence, aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'y rester, d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Alors le contexte général de ce passage, c'est qu'après la résurrection, nous l'avons lu, après la résurrection, le Seigneur est resté encore 40 jours sur cette terre. Et pendant ces 40 jours, eh bien, il a continué à se révéler, il a continué à apparaître à ses disciples. Pendant 40 jours, nous l'avons lu. Il s'est fait voir d'eux, il les a entretenus au sujet du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Donc les apôtres, mes amis, ont eu plus d'une preuve du Christ ressuscité et vivant. S'ils ne l'avaient vu qu'une fois, eh bien, ça aurait donné l'occasion aux détracteurs du christianisme raison de se dire, ah oui, mais c'était peut-être des hallucinations. Voyez-vous, ils ont été pris comme par une sorte d'hallucination collective. À force de parler de leur Messie, ils ont fini par croire qu'il était ressuscité. Non, pas du tout. Pendant 40 jours, il leur a donné toutes sortes d'épreuves, mes amis, de sa résurrection, du fait qu'il est vivant. Oui, Jésus est vivant. Ne vous laissez pas distraire par certaines thèses qui sont défendues par une quelconque science. Jésus est vivant. Et beaucoup d'entre vous sont une preuve vivante de ce qu'il est, lui est vivant. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Ils ne l'ont pas vu une fois ou deux fois. La parole de Dieu déclare qu'avec de nombreuses preuves, et ce durant 40 jours, le Seigneur ressuscité s'est fait voir à eux, leur est apparu et leur a parlé du règne de Dieu. Voilà donc le contexte général. Mais le contexte qui nous intéresse, c'est le contexte restreint, celui de la promesse du Père. Puisqu'il dit, comme Jésus se trouvait, puisque la Bible nous dit, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda. C'est pourquoi je vous ai dit, normalement, il leur donna, certaines versions traduisent en cet endroit, il leur donna l'ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Je vais garder un tout petit peu sur ce mot, sur ce verbe se trouver avec. Si vous êtes un des grands lecteurs de la Bible, c'est-à-dire ceux qui lisent non seulement une seule version, mais plusieurs versions de la Bible afin d'avoir une idée claire sur tel ou tel autre passage de la parole, et je vous encourage, eh bien vous l'avez certainement remarqué qu'en cet endroit, certaines versions disent « un jour pendant qu'ils prenaient un repas avec eux ». Ça vous a peut-être perturbé, l'un dit qu'ils se trouvaient avec eux. L'autre version dit « pendant qu'ils prenaient un repas avec eux ». Eh bien, normalement, littéralement, ce que nous trouvons à cet endroit, c'est ceci, et partageant le sel avec eux. C'est une expression idiomatique pour parler du partage du repas. Voyez. Donc, nous voyons, mes amis, que c'était plus que être avec eux. Il y avait là un moment particulier, un moment d'intense communion. Comme il le dira plus tard à l'église de Laodicée, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui. C'est-à-dire je prendrai le repas principal. J'organiserai un festin avec lui. Voyez. Donc c'est une image de communion, une image d'intimité. Et c'est donc durant cette intimité-là qu'il va leur dire, attendez cette promesse. Certes, il leur avait déjà dit ça avant. Si vous regardez dans Luc, verset 49, puisque c'est le même auteur, eh bien le Seigneur leur dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez. Gloire au Seigneur. Alors, cette promesse du Père, nous allons l'examiner, terminer par là, parce que nous n'avons pas suffisamment le temps, nous continuerons la fois prochaine. Le Seigneur leur demande de ne pas bouger de Jérusalem, de n'aller nulle part, de ne pas prêcher. Ça devait être dur, hein, pour des gens qui avaient déjà découvert la joie et le bonheur qu'il y a à partager Jésus aux autres. Ça devait être dur pour des gens qui avaient déjà eu à prier, pour que ceux qui étaient sous le joug ou la domination du diable en soient libérés, n'aient pas prêché. Il leur demande de ne pas aller pour implanter d'église, de ne pas entrer dans leur vocation d'apôtre, voyez-vous. Donc, mais d'attendre l'expérimentation de la promesse du Père. Et cette promesse du Père est d'après les paroles de Jésus, d'après son explication qui est là, cette promesse du Père n'est autre que le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et comme vous le savez, j'ai déjà eu à vous le répéter plus d'une fois, le mot baptisé veut simplement dire immerger ou submerger. Gloire au Seigneur. Le Seigneur leur dit donc d'attendre pour vivre une immersion du Saint-Esprit. Immersion qu'ils n'avaient pas encore expérimentée, alors même qu'ils croyaient déjà en lui comme le Messie, alors même qu'ils confessaient déjà sa seigneurie, alors même qu'ils avaient déjà expérimenté le salut. Ceux à qui il adresse cette parole ne sont pas de simples religieux ou des païens. Ce sont des gens qui ont déjà cette espérance vivante en eux, qui savent que Jésus est le Sauveur, le Messie attendu. Donc des gens qui ont fait l'expérience de se réconcilier avec Dieu, d'entrer dans une relation filiale avec Dieu, au point de l'appeler Abba Père. Mais voilà que le Seigneur leur dit, il y a encore une autre expérience, l'immersion du Saint-Esprit. Alléluia. La première chose qui frappe, je l'ai souligné, par rapport à cette immersion du Saint-Esprit, c'est que le Seigneur ne leur donne pas une, ou ne leur fait pas une suggestion en disant, je vous suggère quand même de chercher cette immersion du Saint-Esprit. Non. Il ne leur donne pas une option, mais plutôt un ordre. Un ordre. Il leur ordonne d'attendre. Gloire au Seigneur. Comme il a ordonné à la foule de s'asseoir par terre lors de la multiplication de pain. C'est le même verbe. Comme il a ordonné aux lépreux qu'il venait de guérir de ne pas aller publier partout qu'il était le Messie, que celui qui lui avait fait ça. C'est le même verbe ordonné, voyez, qui est utilisé lorsqu'il rencontre le fou de Gadara, cet homme qui était possédé par des démons, complètement dément. Lorsque le Seigneur le rencontre, le Seigneur ordonne à ses esprits. C'est le même verbe. Voyez-vous, c'est le même mot que Paul va utiliser aux Thessaloniciens lorsqu'il dit « Pour vous, nous en sommes persuadés dans le Seigneur, nous vous ordonnons, ce que nous vous ordonnons, vous le faites et vous continuerez à le faire. » Et il terminera en demandant à Timothée ceci, « Je t'ordonne en présence de Dieu, garde le commandement en demeurant sans tâche. » Eh bien, c'est le même mot, avec la même force, c'est le même ordre. Mais malheureusement, tout au long de son histoire, les hommes ont complètement écrémé cette promesse, ils l'ont complètement vidée de sa substance, au point où finalement on a mis de l'accent que sur le salut. Il y en a qui sont même allés plus loin, jusqu'à confondre le salut avec ce baptême-là. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Cette promesse a suscité en eux une attente. Et par rapport à cette attente, eh bien, Dieu va honorer sa parole. Puisque le jour de la Pentecôte, eh bien, la Bible nous dit qu'il y a eu tout un coup, un bruit comme celui d'un souffle violent qui finit par remplir la maison dans laquelle ils étaient assis. Tout d'un coup, des langues semblables à des langues de feu, eh bien, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent, ajoute la parole de Dieu, tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, ce mot, la langue, dérange beaucoup de chrétiens. Voyez-vous, où ce mot, par manque d'une bonne interprétation, a créé toutes sortes de confusions, au point où certains pensent que les langues sont une expérience mystique qui serait réservée à une élite dans le corps du Christ, pas du tout. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur. Donc, cette promesse est aussi valable pour nous. Alors n'essayons pas de fuir. Si nous ne comprenons pas, demandons au Seigneur de nous faire comprendre ce qu'il entend par tout cela. Je reviendrai là-dessus. Voyez? Mais nous devons savoir que lorsque la parole de Dieu utilise cette expression « parler en langue » qu'on désigne par ce terme technique « glossolalie », c'est-à-dire « parler en langue », la Bible désigne le fait de parler un langage qui n'est pas reconnu par l'intelligence. Vous voyez? Et nous le verrons. Quatre cas de figure vont se présenter. Voilà pourquoi je vous ai dit, retenez le verbe « voir et entendre ». Nous allons retrouver cela tout au long du livre des Actes. Vous voyez? À chaque fois qu'il va y avoir le baptême du Saint-Esprit, eh bien, il va y avoir quelque chose à voir et entendre. Oh, alléluia! Oui, ça ne se passe pas comme ça. Ah, oui, je suis baptisé du Saint-Esprit. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils ont parlé d'autres langues. Évidemment qu'ils ne connaissaient pas, mais qui étaient des langues terrestres. Si vous lisez, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Il y avait des Juifs venus de quatre coins du monde. Parmi eux, il y en a qui parlaient arabe, qui parlaient le mède, qui parlaient le crétois, qui parlaient toutes sortes de langues. Il y en avait plusieurs, mes amis. Mais ces Galiléens-là étaient reconnus comme des gens peu instruits. Et voilà qu'au jour de la Pentecôte, ils se sont mis à parler, eux ils parlaient en langue. C'est-à-dire eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Ils proclamaient les merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais qui pourtant étaient des langues que le public comprenait. Puisqu'ils ont réagi, mes amis, ils ont dit, mais comment expliquer que ces gens non instruits, des Galiléens, puissent parler des langues que nous, nous connaissons? Ils ont été stupéfaits, perplexes, hors d'eux-mêmes. Eh oui, comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue? Ça existe encore aujourd'hui. Je me souviens, je terminerai par là, nous organisions à l'époque à l'église la pierre vivante de Jean Blou pendant des années. Tout le dernier vendredi du mois, nous avions des nuits de prière. Alors il y avait des étudiants de l'école biblique, de la faculté de théologie qui venaient. Et je me souviens cette nuit-là, il y avait des amis italiens, pasteurs, étaient venus se joindre à nous dans ces moments de prière. Parce qu'avec le temps, ces nuits de prière avaient fini par connaître beaucoup de succès. Je me souviens deux fois, il y a deux ou trois minibus qui partaient pour amener les gens à ces nuits de prière-là. Nous avons prié, nous avons prié. À un moment, vers peut-être une heure, deux heures du matin, nous devions nous reposer. Je vois un pasteur qui vient, qui est d'ailleurs, qui est toujours dans le ministère, un Italien. Il me dit, pasteur, la sœur là, il pointe du doigt une étudiante française. Est-ce qu'elle est italienne? Je dis non, elle est française. Elle dit, ah bon, vous êtes sûr? Je dis oui, elle est française. Il dit, tout à l'heure, pendant que nous prions, elle a parlé en italien, comme si elle s'adressait à moi. J'ai entendu un message et ça me concernait. Je me suis tourné vers cette fille, cette étudiante française. Je lui ai posé la question de savoir si elle parlait italien. Elle a dit non. Non, pasteur, moi je ne parle pas italien. Vous voyez, Dieu a confirmé sa parole. Elle-même ne savait pas. Elle a parlé dans une langue qu'elle ignorait. Mais il y avait quelqu'un, un pasteur italien, d'ailleurs je me souviens encore de son nom, Rampello, Domenico, eh bien, il a reçu ce message en italien, et ça le concernait. Et à la fin de la nuit de prière, le matin vers 6 heures, il est reparti avec un cœur béni, comme cette foule à Jérusalem, alléluia. Mais il y a aussi des langues qui sont données, mais qui vont nécessiter l'interprétation. Voilà, c'est là que il y a la confusion et nous prendrons du temps pour examiner, puisque lorsque le Seigneur baptise du Saint-Esprit, eh bien, la Bible nous dit, il faut qu'on voit et qu'on entend. C'est ce que Pierre a dit, c'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il a répandu, écoutez, il a répandu comme vous voyez et comme vous entendez. Répétez avec moi. Voyez et entendez. Voyez et entendez. Eh bien, quand il y a cette expérience, les gens voient, les gens entendent. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous parlons du signe initial. Dieu baptise encore aujourd'hui. La promesse du Père, c'est celle que les apôtres ont expérimenté, celle que cette foule a pu et entendu. Alors, Dieu voudrait le faire encore aujourd'hui. Et quand il le fait, mes amis, et il faudra que nous voyions et que nous entendions. Que Dieu soit béni. Amen.
expérimenté ce baptême du Saint-Esprit, comme les apôtres, comme les autres disciples. Car ce baptême, ô Dieu, va nous revêtir de puissance, va booster notre foi, va nous communiquer une nouvelle dimension de la vie chrétienne. Oh, je prie pour que, Seigneur, tu nous prépares, ou du moins pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ce baptême, que tu suscites dans les cœurs de tous ceux-là, Seigneur, cette attente, cette recherche, mais avec foi. Car tout ce qui vient de toi, toutes les promesses que tu nous as faites, c'est par la foi que nous les obtenons. C'est donc une recherche de foi, comme nous le verrons plus tard. Mais en attendant, s'il y en a un ou deux, ou trois, Seigneur, ou plusieurs qui aimeraient passer par cette expérience, oh, je te prie, pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu suscites en eux cette attente et qu'ils se mettent à la recherche de cette expérience de l'accomplissement de cette promesse. Merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur.